Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire, mars, avril 2007. La vraie confession. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par la parole de Matthieu 16, 16, la véritable confession de l'apôtre Pierre qui nous est aussi accordée par révélation. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 16 et 17. D'abord, la question fut d'ordre général. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et plusieurs réponses furent données. Alors, le maître demanda à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Et immédiatement par révélation la réponse vint, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La confession de Pierre n'était pas le résultat d'un synode ou de ce que disaient les gens, mais elle était plutôt une révélation directe qu'il avait reçue de Dieu, et c'est sur cela que repose la bénédiction. S'il vous plaît, remarquez qu'il n'est pas seulement dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant », mais, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En tant que le Oin, comme Christ, il est le Fils de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, les églises chrétiennes déclarent et soutiennent que le credo nicéo-cacédonien est la confession apostolique. Cependant, ce credo n'a aucun rapport avec les apôtres. En effet, cela ne peut en aucun cas être lié aux apôtres, parce qu'il a été conçu des siècles plus tard, entre 325 et 381 après Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, la doctrine de la Trinité et le baptême dans la forme trinitaire sont érigés comme fondement de l'Église, et ce, depuis le temps de Constantin dans l'Empire romain. Et ces deux colonnes, la doctrine de la Trinité et le baptême dans la forme trinitaire, ne sont pas du tout bâties sur le roc, mais au contraire sur du sable. C'est ainsi qu'on ne peut dire qu'elles sont édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes, car elles n'étaient pas connues des apôtres. Ce n'est que cette révélation de Jésus-Christ, comme notre Seigneur l'a dit à Pierre, Petros, qui est le roc, Petra, sur lequel il a bâti son église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seul celui qui reçoit de la part de Dieu la même révélation, détient la véritable et complète confession de foi, que Dieu lui-même avait fait connaître à Pierre, aux apôtres, et à l'église du Nouveau Testament. Dès son commencement, l'Église de Jésus-Christ n'est liée qu'à la Bible, et ne peut croire que comme le disent les Écritures et ce que disent les Écritures, à savoir, le seul vrai et unique Dieu s'est révélé lui-même pour notre salut en tant que Père au ciel, dans son seul Fils engendré sur la terre, et par le Saint-Esprit dans l'Église. Sur ce point, nous n'irons pas dans les détails. Par contre, nous voulons traiter brièvement le sujet touchant la vraie confession de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Depuis le temps de la Réformation, la question autour de la personne de l'Antéchrist est devenue un thème important dans le monde chrétien. En général, il est dit que l'Antéchrist serait à chercher et à trouver en dehors du christianisme. Ils le disent en s'appuyant sur le passage suivant, « Quiconque confesse Jésus-Christ comme Fils de Dieu, et de Dieu. » Cette explication ne touche pas du tout le noyau de la véritable confession, elle n'est pas complète. Nous devons lire attentivement ce qui est réellement écrit dans les Saintes Écritures, et ainsi, séparer la confession, que les pères de l'Église en ont tirée, et interprétée, pour en faire un credo. La fausse confession peut être aussi proche de la véritable, tout comme un faux billet de banque que quelqu'un ferait circuler sans savoir que c'est une contrefaçon. Dans 1 Jean 4, se trouve la déclaration type, à laquelle on se réfère. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Cela est précédé par un Jean 2, 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Il s'agit de l'ensemble de la confession de Jésus-Christ, le Oint, le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui lit attentivement se rendra compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une confession des lèvres, mais plutôt de la révélation fondamentale de qui est réellement Jésus-Christ, le Oint, car l'Église est bâtie sur cette révélation. Dans ce contexte, il est utile de savoir que le nom hébreu du Rédempteur est Yahshua. L'ange avait dit à Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yahshua, ce qui est le synonyme de Yahvé, Sauveur. » Tout comme, « Emmanuel » signifie, « Dieu avec nous ». Yahweh est la révélation du nom de Dieu de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Ainsi dit le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel, Yahvé, Elohim. Exode 6, 3. Dans le Nouveau Testament, il est dit, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. 1 Timothée 3, 16. Yahweh, le Seigneur lui-même, est venu à nous, en tant qu'Yahshua. Yahvé de l'Ancien Testament, et Yahshua du Nouveau Testament. C'est le nom d'alliance du Seigneur dans le Nouveau Testament, en qui seul se trouve le plein salut. En tant que Christ, le Oint, il est apparu dans la chair, et est devenu notre Rédempteur. Les Écritures rendent témoignage de cela, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Dans Genèse 18, le Seigneur vint visiter son serviteur Abraham dans une forme humaine, il mangea et but avec lui. Dans Jean 8, 58, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Plus loin, la parole de Dieu dit, « et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 12, 3. Celui que nous connaissons en tant que Fils de Dieu, est la parole elle-même, qui était avec Dieu au commencement, le Logos, celui qui a appelé toute chose à l'existence et par qui, et pour qui, tout a été créé. Même s'il s'est manifesté en tant que Fils dans la chair, il demeure le Seigneur, le « Je suis », le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Seigneur devint serviteur, il devint comme nous. La parole se fit chair et habita parmi nous. Dans le Fils de Dieu, tous les fils et filles de Dieu ont reçu leur rédemption et l'adoption en tant que fils. Galates 4, 5, Hébreux 2, 10 et 11, Jean 20, 17, etc. Une confession superficielle de Jésus, en tant que Fils de Dieu, est quelque chose qu'ont l'Antéchrist, tous les faux prophètes, et même les démons. En rapport avec Jésus, voici ce qu'ils dirent. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Matthieu 8, 29. Marc, l'évangéliste, a aussi écrit sur quelqu'un qui était possédé. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Marc 5, 6 et 7. Le possédé prononça même le nom de Jésus. L'évangéliste Luc a également écrit la même histoire, afin que nous ayons trois témoins. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ?» Luc 8, 28. Quel est le théologien ou le prédicateur qui dirait que le possédé ou les démons étaient de Dieu? Simplement parce qu'ils confessèrent Jésus en tant que Fils de Dieu? Dans le christianisme, tous confessent Jésus comme Fils de Dieu, mais de plusieurs manières entièrement différentes. Par exemple, il y en a qui croient que Dieu en tant que Père, avait engendré un Fils dans l'éternité. Cependant, un tel Fils de Dieu n'existe pas dans les Saintes Écritures. D'autres croient que le Fils est le premier-né dans l'œuvre de la création. Le témoignage d'un tel fils de Dieu n'est pas non plus repris dans les saintes Écritures. Certains croient que, dans l'Ancien Testament, le fils était l'archange Michaël, qui dans le Nouveau Testament, prit une forme corporelle. Un tel fils de Dieu n'existe pas non plus. Ce qui suit est un extrait du catéchisme. Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu, venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père. Ce credo de l'Église est aussi loin des saintes Écritures, que les cieux, de la terre. Il existe plusieurs variations de ces « confessions du Fils », qui sont toutes non bibliques. Seuls les témoignages décrits dans la Bible sont en effet bibliques. Tout au long de l'espace du temps de l'Ancien Testament, à commencer par Genèse 3:15, jusqu'à Malachie 3:1, le Fils de Dieu est annoncé comme Rédempteur, comme Christ, le Messie. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le récit de sa naissance, à son ascension. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 31-35. Nulle part, il n'est dit dans les saintes Écritures que le Père aurait enfanté un fils dans le ciel, qui devint par après fils sur la terre. Cela n'est qu'une invention des pères de l'Église, qui ne connaissaient ni Dieu, ni la manifestation du Père dans le Fils. Ils ne s'étaient pas convertis à Christ, comme cela est confirmé dans l'histoire de l'Église, mais ils s'étaient plutôt tournés vers le christianisme. Les Écritures prophétiques de l'Ancien Testament rendent le témoignage suivant au sujet du Fils de Dieu. « Je publierai le décret, l'Éternel, Yahvé, m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2:7. Voyez aussi Acte 13:33 et Hébreux 5:5. Dans l'éternité, il n'y a pas d'aujourd'hui ni de demain, l'éternité n'a pas de commencement. Elle a toujours été et sera pour toujours. Dans Psaume 90 il est dit, « D'éternité en éternité tu es Dieu. Seuls ceux qui ont reçu la vie éternelle peuvent, et vont, vivre éternellement. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11 et 12. La relation Père-Fils était déjà prédite dans l'Ancien Testament. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7-14, 1 Chronique 17-13. Dans Psaume 89, 26 et 27, nous lisons. Lui, il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le prophète Ésaïe annonça la naissance du fils de cette manière. Voici. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7:14. Par le prophète Michée, l'endroit où devait naître le fils fut prédit, c'est-à-dire à Bethléem, en Judée. Chapitre 5. Tout lecteur de la Bible connaît les récits des évangélistes Matthieu et Luc, au sujet de la naissance du Fils de Dieu. Le Fils fut engendré par le Père, et enfanté par Marie, la mère. Dans Psaume 22, 10 et 11, il est dit, « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. » Voici le témoignage du Fils. « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Jean 8, 42. « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jean 16, 26 à 33. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Jean 17. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain, la voix venant du ciel retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 13 à 17. Sur la montagne de la Transfiguration, la voix venant du ciel retentit à nouveau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Matthieu 17, 5. Ce n'est qu'en croyant la confession biblique comme celle que Pierre avait reçue par révélation divine, et en laissant les Écritures qui appartiennent à ce sujet telles qu'elles sont écrites, que l'Esprit de Dieu nous révèle alors ce mystère incompréhensible, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5. Ce n'est que dans la Bible que nous trouvons le témoignage légitime de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par conséquent, il n'y a aucune déclaration sur le Fils éternel, seulement le Père éternel. Pas une seule fois, on y trouve une déclaration sur Dieu le Fils, mais plutôt Fils de Dieu. Pas une seule fois nous trouvons les mots Dieu le Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit de Dieu. Pas une seule fois, le terme la Trinité de Dieu, mais il est toujours dit, le Dieu unique. Pas une seule fois il nous a été recommandé dans la Bible de prier, notre Fils qui est au ciel, au contraire nous devons adresser notre reconnaissance à Dieu le Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que cela soit bien clair, aucune des choses qui sont écrites sur ce sujet dans les livres des Églises, ne sont à trouver dans la Bible. Et rien de ce qui est écrit dans la Bible ne peut être trouvé dans les livres des Églises. Ce sont des mots durs, qui pourra les entendre? Celui qui ne respecte pas de tout son cœur la parole de Dieu, ne recevra pas cette révélation. C'est ainsi qu'il est écrit, « Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11. 27. Par ce qui suit, nous voulons conclure ce sujet. Notre Seigneur et Rédempteur nous est présenté dans chacun des contextes correspondants, en tant que fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, et fils de l'homme. Également comme agneau de Dieu, médiateur, avocat, roi, sacrificateur, et prophète. C'est important que nous laissions chaque chose à l'endroit où c'est écrit et dans le contexte dans lequel cela nous a été transmis. Tout doit rester dans l'ordre divin. Puisse le Dieu fidèle nous conduire par son esprit dans toute la vérité, et comme avec Pierre et l'Église du commencement, qu'il nous fasse savoir par la révélation divine, qui est réellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le monde entier dans une seule main. La prophétie biblique est écrite d'une manière mystérieuse. Seul le Dieu omniscient connaissait la fin, avant le commencement. Par l'Esprit de Dieu, les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament reçurent des révélations sur le cours de l'histoire de l'humanité, et sur la fin des temps. Le prophète Ésaïe a écrit sur la dernière période, après que le Seigneur a fini l'œuvre de la rédemption avec l'Église. Il achève par la suite son œuvre avec Israël sur la montagne de Sion à Jérusalem. Il a aussi écrit sur le dirigeant mondial qui tient tout dans sa main, et qui pense, et dit de lui-même, « C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent, j'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. » Comme sur un nid, et, comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Ésaïe 10, 13 et 14. À qui se référait le prophète dans cette écriture? Qui correspond à cette description? Qui détient le monde entier dans la paume de sa main? Qui domine sur le monde? Où sont tous les trésors? Où se trouvent les richesses incommensurables des nations? Nous connaissons les quatre empires mondiaux, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec, et depuis 63 avant Jésus-Christ, l'Empire mondial romain. L'objectif a toujours été la conquête brutale et la domination du monde, ce qui fut également l'élément déclencheur des deux dernières guerres mondiales. Ce qui est remarquable, c'est que lors du jour fatidique en 1935, quand les nazis tinrent leur conférence du parti à Nuremberg, Hitler s'exclama, et une foi unique pour le monde entier. Aujourd'hui c'est du passé. Il n'y a plus d'Hitler, de Staline, ou de Mussolini. Les frontières tracées ont changé à chaque guerre mondiale, mais maintenant l'objectif est d'abolir toute frontière entre nations. Ici en Europe, nous avons directement assisté à ce développement depuis 1989. Le jeudi 9 novembre 1989 fut un jour que nul ne pourra oublier, jour où les frontières entre les deux États allemands furent ouvertes. Ce fut le commencement de la réunification de l'Allemagne. Déjà le 19 mars 1962, frère Branham avait dit « Il y a eu une renaissance à Rome. Savez-vous ce qui arrivera s'il rend de la partie est de Berlin? Cela fera sortir le communisme, et l'Empire romain prendra place, exactement comme c'était du temps de Jésus. Le communisme mondial fut vaincu par le catholicisme mondial. Et le capitalisme mondial mit fin à l'utopie du socialisme mondial. Les deux grandes puissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, qui s'élevèrent après la Deuxième Guerre mondiale et divisèrent le monde entre Est et Ouest, ne sont plus ce qu'elles furent. Tous furent pris par surprise, les dirigeants furent renversés, et nul n'a dit quoi que ce soit. Maintenant l'Union européenne, qui en ce moment comprend 27 pays et 493 millions d'habitants, est en train d'adopter son statut de puissance mondiale. Comme décrit dans les Écritures, les frontières à l'intérieur de l'Union européenne ont disparu. Sur les couvertures des nouveaux passeports, il est fièrement écrit en majuscules « Union européenne ». Celui qui voyage souvent, sait apprécier le fait de traverser toute l'Europe, sans aucune frontière, et aussi le fait de payer presque partout avec la même devise. Cependant, il y a plus en jeu ici que l'Europe. Le point à atteindre est la globalisation, le commerce mondial. Il est question du pétrole, de l'énergie, le point de survie de la communauté mondiale, mais en fin de compte, il s'agit de la puissance, de la domination mondiale. Toutes les religions et toutes les cultures seront ramenées sous un seul patronage afin que tout soit finalement mis dans les mains d'une seule autorité. Une seule puissance mondiale centrale n'est pas dépendante des ressources pétrolières ou de l'approvisionnement en énergie. Ainsi elle est capable de satisfaire tout le monde, et pourra finalement accomplir le souhait de paix et de justice. Maintenant que nous sommes dans un temps où le monde est meurtri par plusieurs blessures, et que le pétrole du Golfe est teinté de sang, avec des millions de gens qui doivent en supporter les conséquences, les attentes pour la paix et la sécurité sont devenues plus pressantes. Entre-temps, le Moyen-Orient autour d'Israël est devenu la zone principale de conflit. Il y a plusieurs écritures dans lesquelles sont décrites la puissance mondiale du temps de la fin, et son personnage central. En prêtant de plus près attention à la comparaison entre l'ancienne Babylone du temps de Nebuchadnezzar et la Babylone du temps de la fin, on a, d'un côté, la confusion des langues qui est encore d'actualité comme au temps de la construction de la tour de Babel. Et de l'autre côté, le processus de communication et d'unification qui est en plein essor. Dans Jérémie 51:7, nous lisons, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Le Seigneur ajoute, « Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. » Jérémie 51, 25. Le prophète Daniel a aussi parlé du dernier dirigeant mondial qui tient tout entre ses mains. Les deux choses sont mentionnées, le dernier empire mondial, et le dernier dirigeant mondial. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Daniel 2:40. Les hommes et les nations n'ont pas d'autre choix, ils doivent se conformer et se soumettre, car c'est la directive divine. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, et la brisera. Daniel 7, 23. Selon la prophétie biblique, il y a sept têtes et 10 cornes dans le dernier empire mondial. Les 7 têtes directrices assument l'autorité, elles déterminent la direction, sans tenir compte du nombre des nations qui sont incluses dans le processus d'unification. C'est là que s'applique le terme G7. Le 8e n'est qu'un pro forma attaché. Les 10 cornes sont des États qui ne sont pas d'accord avec le système des pays de l'Ouest, mais qui, étant dans le besoin, sont obligés de se joindre sans protester. Ce n'est qu'au jour J, qu'ils frapperont avec leurs cornes, déchaîneront toute leur colère, et détruiront la ville dirigeante en une seule heure, comme il est écrit à 3 reprises dans Apocalypse 18. Malheur! Malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Versets 16 et 17. Hélas! Tous les chemins mènent à Rome, et non à Washington, non à Moscou, et non plus à Pékin. Rome, la capitale mondiale de toutes les cultures, de toutes les religions, et même de l'économie globale. Là, tout est uni dans une seule main, pour enfin apporter la paix tant attendue sur la terre. Toutes les nations de ce monde peuvent être impliquées dans des guerres et des guerres civiles, mais pas l'État du Vatican, car il n'a que la garde suisse comme armée, pas de chars, pas de force aérienne, et aucune bombe nucléaire. Alors de la tentation qui viendra sur le monde entier, cet homme entrera sur la scène mondiale en tant que sauveur et pacificateur. La globalisation est le moyen pour atteindre la paix et la sécurité, avec, comme point culminant, un traité de paix sur Jérusalem. Il n'y a qu'une seule institution qui maintient des relations diplomatiques avec toutes les nations de la terre, un seul homme en qui tous les gouvernements ont confiance, et avec qui ils négocient des concordats, ou des traités, lui permettant d'assurer ses droits dans le monde entier. Tous les chefs d'État, tous les conducteurs religieux vont à Rome. Nous connaissons le traité de Rome, la Constitution européenne, le statut européen, la Cour européenne de justice, etc., que tous doivent accepter. C'est ainsi que la direction mondiale se retrouve bel et bien dans une seule main. Le prophète Daniel a écrit les paroles suivantes au sujet du dirigeant mondial qui exerce son influence au travers de toutes les institutions religieuses et politiques. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Daniel 8, 24 et 25, Ésaïe 11, 4, 2 Thessaloniciens 2, 9. L'heure de la tentation. L'écriture suivante fut adressée à l'église de Philadelphie, qui est l'avant-dernière. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 10 et 11. Les âges des églises qui sont derrière nous ont tous été préservés de l'heure de la tentation. Cependant, maintenant que la fin de toute chose est proche, les croyants n'entendent pas seulement le cri « Voici l'époux vient », mais ils doivent aussi endurer l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, qui viendra sur la terre entière, n'est pas la même que les épreuves quotidiennes dont il est question dans la prière du Seigneur, et conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Mais cette tentation est semblable à celle que Satan exerça sur le Sauveur. À chaque fois que le Seigneur ordonnait une chose, cela arrivait conformément, de la même manière que le Seigneur Dieu appela toute chose à l'existence par sa parole toute puissante. Genèse 1, Hébreux 11, 3. C'est ainsi que fit le Seigneur Jésus pendant son ministère en tant que Fils de l'homme. Jean 5, 19 et 20. Il parla et la chose s'accomplit. Il commanda à la tempête et aux vagues et elles se calmèrent. Il dit à l'aveugle, « Reçois la vue !» Et il put recouvrir la vue. Il parla aux sourds et il put entendre quand il dit aux lépreux, « Sois pur !» Cela arriva instantanément. Lors de la tentation, Satan lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Pendant que le Seigneur jeûnait, Satan saisit cette occasion pour le défier. Tous connaissent la réponse que le Seigneur donna. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, Satan le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Matthieu 4, 1 à 11. La tentation consistait en ce que l'ennemi essaya de faire tomber notre Seigneur et Sauveur avec la parole de Dieu, utilisant le « Il est écrit ». Dans le jardin d'Éden, Satan utilisa la même astuce pour séduire Ève, qui par la suite entraîna Adam. Ce fut la première grande tentation au commencement, dans le paradis, et elle conduisit dans la chute. Jésus, le second Adam, résista à la tentation, et nous a rachetés de la chute. Il a vaincu Satan, la mort et l'enfer. Dans le ministère de frère Branham, ministère qui était extraordinaire, surnaturel et confirmé, ont eu lieu des signes et des miracles venant directement de la parole parlée de Dieu. Il prononçait ce qui devait arriver tel que cela lui avait été révélé par Dieu, et cela arrivait instantanément. Parmi toutes ces choses extraordinaires auxquelles il se référait, il y avait aussi des miracles de création spontanée, tels que cela était avec frère Branham le messager. Ainsi en sera-t-il à la fin avec l'Église épouse. Elle aura le même ministère, le même absolu, la même autorité de la parole de Dieu, dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arriva il y a 2000 ans est derrière nous. Cependant, aujourd'hui encore l'ennemi vient sournoisement avec l'Écriture, avec le « Il est écrit ». Mais chaque fois, il l'utilise pour tenter, prenant la parole en dehors du contexte, et ajoutant sa propre interprétation. Notre réponse aujourd'hui doit être la même que celle du Rédempteur. De même que notre Seigneur dut faire face à la tentation de Satan, ainsi les rachetés doivent maintenant faire face à cette même tentation, et par cela, prouver leur fidélité à Dieu et à sa parole. D'abord, le dragon se tient devant la femme, l'Église des nations du temps de la fin. Et d'elle, naîtra le fils mâle, les vainqueurs, qui prendront part à l'enlèvement. Après le repas des noces, ils reviendront avec Christ pour régner avec lui, le roi des rois, pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse 5:10, Apocalypse 20:1-20, etc. L'Écriture nous dit que tous les habitants de la terre adoreront le dernier dirigeant mondial et son image, c'est cela la tentation. Tous y prendront part, à l'exception de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, ceux qui sont demeurés fermes dans la parole de Dieu. Apocalypse 13. Sur ce sujet, plusieurs passages des Écritures pourraient être cités, spécialement dans les livres de Daniel et d'Apocalypse. Notre préoccupation actuelle est que nous puissions reconnaître l'accomplissement des prophéties bibliques, aussi dans le domaine politique. Pour nous, il en est comme de l'écriture sur la muraille, le Méné Tékel, le langage clair de Dieu. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, le monde entier regarde à un seul homme, parce qu'il prétend porter sur lui la responsabilité de la terre entière. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ils sont dans sa main, et il sera avec eux dans cette heure de la tentation jusqu'à ce qu'il passe de la foi à la vue. Le temps de nettoyer les lampes. La brochure, Les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole, a été une bénédiction pour plusieurs partout dans le monde. Cependant, des frères dans le ministère me posent toujours de nouvelles questions, et me demandent une réponse publique, et claire. Cela à cause de ceux qui apportent des doctrines et des révélations particulières. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais mentionné un frère par son nom, que ce soit pendant une réunion ou dans une brochure, et cela demeurera ainsi dans le futur, à moins que Dieu ne me l'ordonne directement. Les prophètes que Dieu avait envoyés ne pouvaient pas arrêter les faux prophètes qui inévitablement apparaissaient. Les apôtres ne pouvaient pas en leur temps empêcher les faux docteurs et faux apôtres d'entrer en scène. Jésus-Christ n'empêche pas que les faux Christ et faux prophètes apparaissent. Néanmoins, en tout temps, il y a toujours eu un seul appel original, une seule commission directe liée au plan du salut de Dieu, et des différents ministères placés dans l'Église. 1 Corinthiens 12-14, Éphésiens 4, etc. Il y avait seulement 1 Noé, 1 Abraham, 1 Moïse, 1 Josué, etc. Il y avait seulement 1 Jean-Baptiste, 1 apôtre Pierre, 1 apôtre Paul. Dans le cours de l'histoire entière de l'Église, il y a toujours eu un seul homme qui venait sur la scène avec un ministère spécial, et un mandat divin. Dans chaque lettre adressée aux sept églises, Apocalypse 2-3, le message est adressé à un seul ange, et lui, a le devoir de transmettre le message divin, aux serviteurs de Dieu. Apocalypse 1-1-3. Dans notre temps, comme cela fut confirmé par Dieu lui-même, William Branham était l'homme envoyé par Dieu avec un message de restauration pour le peuple de Dieu, avant la seconde venue de Christ. Depuis le temps où frère Branham fut repris dans la gloire, nous pouvons regarder à plusieurs années en arrière, pendant lesquelles le message a été apporté dans le monde entier, selon l'ordre du Seigneur, « Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. » Si la venue de l'Époux Céleste se fait attendre encore un peu, c'est afin que les derniers puissent être appelés à sortir, et à se préparer pour sa venue. Le message de l'heure inclut tout le conseil de Dieu. Chaque enseignement biblique, chaque pratique biblique, l'ensemble de l'ordre biblique, doivent être restaurés dans l'Église de Jésus-Christ. Récemment, des enseignements incroyables sur Matthieu 25, furent propagés, tout comme autrefois les révélations des sept tonnerres, ainsi que les spéculations sur le mystère du septième sceau, sur 1 Thessaloniciens 4, concernant la venue de Christ, et aussi sur Apocalypse 10. Nul n'a besoin de présenter sa philosophie sur l'un de ces sujets, chaque événement va s'accomplir tel que c'est écrit. Cela s'applique aussi à Matthieu 25, et cela s'accomplit tel que le Seigneur l'a dit. Chaque interprétation vient du malin. Dieu fait toutes choses selon sa parole, et nous devons respecter cela. Nous attendons les grandes choses que Dieu a réservées pour nous, et nous avons un grand désir de les voir s'accomplir. Alors par quelle autorité? Certains frères permettent sans cesse à l'ennemi de les utiliser, les faisant présenter leurs interprétations, afin de tenter d'apaiser le véritable et brûlant désir qu'ont les croyants de voir la parole s'accomplir. Voici la commission qu'avait reçue frère Branham. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. En tant qu'homme de Dieu, frère Branham a prêché le plein évangile, comme le fit l'apôtre Paul. Il a apporté le message entier de Dieu. En s'adressant spécialement aux frères dans le ministère, il avait dit, « Vous ne devez pas mal interpréter la parole, vous ne devez pas la placer en dehors de son contexte, et non plus l'enlever. » Dans la parabole de Matthieu 25, au sujet des 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux, il est question des lampes, de l'huile, et du nettoyage des lampes. Frère Branham a dit la chose suivante à ce sujet, « C'est vrai, nous devons faire en sorte que nos lampes soient toujours remplies, afin qu'elles brûlent. Ce que vous avez maintenant ne suffira pas, car le feu qui vient de l'huile produit de la suie. C'est pour cela que vous devez nettoyer les lampes. Vous devez nettoyer continuellement vos lampes et ainsi avancer sur la trace de la vocation céleste en Christ. » 24 mars 1963. Remarquez, c'est le temps de nettoyer les lampes, de sortir et d'entrer. 27 novembre 1965. Le message vient premièrement. Maintenant, c'est le temps de nettoyer les lampes. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Voici l'époux vient. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Et elles le firent. Certaines se rendirent compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile dans leurs lampes. Mais maintenant c'est le temps du nettoyage des lampes. 4 décembre 1965. Déjà du vivant de frère Branham, Matthieu 25 était une préoccupation, comme c'est le cas aujourd'hui. Depuis que le message a été donné, l'appel à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu a lieu, et aussi l'introduction dans l'harmonie parfaite avec la parole. Frère Branham s'est référé 75 fois à Zacharie 14:7, en insistant et en proclamant, « Au temps du soir, il y aura de la lumière. » Il disait cela en relation avec le message qui lui a été confié. Bien souvent, il chantait ce chœur, « Il y aura de la lumière au temps du soir, vous trouverez certainement le chemin de la gloire. » Nous devons laisser à Dieu l'espace de temps qui s'écoule entre le temps du soir et le temps de minuit. Dans Matthieu 24, il est parlé du serviteur qui distribue la nourriture aux serviteurs de la maison de Dieu. Dans Matthieu 25, nous lisons que les vierges sortent pour rencontrer l'époux. La moitié des vierges est sage et l'autre moitié est folle. Les deux groupes croient au retour de Christ, les deux vont à la rencontre de l'époux, les deux ont des lampes, c'est-à-dire, l'éclaircissement spirituel. Les deux groupes s'endorment, car elles pensent que la venue de l'époux tarde. 2 Pierre 3:9. Mais alors le cri annonçant la venue de l'époux se fait entendre, « Voici l'époux vient !» Et toutes les vierges se réveillent, et nettoient leurs lampes. Aux vierges sages, s'applique l'écriture suivante, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Et aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13 et 14. Une onction charismatique n'est pas suffisante. Ceux qui croient réellement doivent recevoir la parole de la vérité comme la semence divine dans leur cœur pour être scellés du Saint-Esprit. La parole de la vérité et l'Esprit de la vérité vont ensemble. La dernière œuvre directe du Saint-Esprit se manifestera parmi les vierges sages. Et c'est seulement à ce moment-là que les vierges folles réaliseront qu'elles n'ont pas la plénitude de l'Esprit. Alors, elles iront vers les sages pour leur demander de l'huile. Mais comment quelqu'un qui est réellement baptisé du Saint-Esprit pourrait-il donner de l'huile de l'Esprit à un autre croyant? Cela n'est pas possible. Ceci est la grande leçon à retenir, seul Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit et de feu. Lui seul peut accomplir la promesse du Père, et revêtir de la puissance d'en haut. Matthieu 3, 11 et 12, Luc 24, 49, Actes 1, 1 à 9. Déjà lors de son premier sermon, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre ordonna que les croyants soient baptisés d'eau, et annonça le baptême du Saint-Esprit. Actes 2, 38 et 39. Les sages croient comme le dit l'Écriture. Elles sont baptisées par immersion dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et reçoivent le baptême du Saint-Esprit comme confirmation. Dans Matthieu 25, toute la vérité apparaît en pleine lumière. Les sages n'envoient pas les folles à Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit, mais à ceux qui en vendent, à ceux qui donnent l'impression qu'ils peuvent transmettre aux autres la puissance du Saint-Esprit. Partout sur la terre, il y a deux choses qui se déroulent en rapport avec cela. Premièrement, il y a ceux qui demeurent sous l'influence des faux enseignements, tel est le cas dans toutes les réunions charismatiques, où les gens sont appelés devant pour recevoir le Saint-Esprit sans qu'il y ait eu, auparavant, un enseignement sur le baptême scripturaire des croyants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon leur programme, Les gens tombent en arrière et sont gentiment attrapés par ceux qui se tiennent derrière eux, et les loin du temps de la fin, s'écrie à haute voix, vous avez été frappés par la puissance du Saint-Esprit. Les faux oints et les faux prophètes demeurent dans leurs faux enseignements traditionnels, et n'envisagent pas d'accepter la correction afin de s'ajuster aux enseignements bibliques. Ils ne mettent pas l'accent sur la parole, qui demeure éternellement, mais plutôt sur les signes et les miracles. Deuxièmement, il y a ceux qui se séparent et s'alignent à la parole de Dieu révélée. Ils mangent de la manne cachée et ils sont sanctifiés par l'esprit de vérité dans la parole de la vérité. Pendant le dernier mouvement du Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu sera manifestée comme jamais auparavant, les folles réaliseront alors qu'elles n'avaient pas reçu la véritable plénitude du Saint-Esprit. Elles seront envoyées vers ceux qui vendent, afin d'acheter de l'huile. Pourquoi acheter? Le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Dans les réunions charismatiques, le soi-disant mouvement du Saint-Esprit est lié au grand commerce. Non seulement dans son sermon Les Oints du temps de la fin, mais à maintes reprises, frère Branham a parlé de ceux qui font de grands signes et miracles, et qui, si cela était possible, séduiraient les élus comme l'a dit notre Seigneur dans Matthieu 24:24. Manifestement, les folles n'ont pas atteint la relation parfaite avec le Seigneur. Elles n'ont pas trouvé leur chemin de retour aux véritables enseignements de l'Église de Jésus-Christ. Elles ne sont pas entièrement sorties de tous les enseignements traditionnels, et c'est ainsi qu'elles iront, au moment où vient l'époux, vers ceux qui vendent, au lieu d'aller à Jésus-Christ pour obtenir l'huile du Saint-Esprit. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les vierges folles qui frappent à la porte fermée, disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. La réponse qu'elles recevront est très similaire à celle qui fut donnée à ceux qui font des grands signes et miracles selon Matthieu 7, 21 à 25. Ceux-là aussi disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses en ton nom? Sa réponse sera, je ne vous ai jamais connu. Les vierges sages se sont préparées et s'apprêtent à entrer dans la salle des noces. Verset 10. Elles ne se laissent pas impressionner par les réunions charismatiques. Elles croient la parole de Dieu révélée, et sont conduites par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Elles reconnaissent que Dieu fait toutes choses selon sa parole promise. Et qu'il a envoyé son prophète afin que par son ministère, tout soit restauré et ramené dans l'ordre de l'Église originale. Elles reviennent au premier amour, car c'est seulement l'amour parfait qui entrera là-bas. C'est ainsi que cela fut révélé à frère Branham. L'apôtre Paul avait également enseigné, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. » 1 Corinthiens 13. Chacun d'entre nous, homme ou femme, doit se demander, « Suis-je prêt? Est-ce que ma lampe est nettoyée? Ai-je l'huile de l'Esprit en moi et avec moi? Ai-je de l'huile dans ma lampe? Ai-je de l'huile dans mon vase pour remplir la lampe? Est-ce que je marche avec Dieu comme le fit Enoch? C'est alors que nous pourrons être prêts au moment du retour de Jésus-Christ, et ainsi prendre part à l'enlèvement. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 15 et 18. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck,